France Inter, 8h. Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Métro, boulot, dodo, voilà ce qui attend 20 millions d'entre nous à partir de samedi 0h. Couvre-feu décrété hier soir par Emmanuel Macron pour faire reculer l'épidémie. Plus de sorties chez des amis, au restaurant, au cinéma, au théâtre. Nous y étions hier soir, rideau de 21h à 6h du matin. La méthode a fait ses preuves en Guyane, nous l'entendrons. Mais y a-t-il suffisamment de policiers de nuit pour la faire appliquer en métropole ? Certains élus d'Île-de-France en doutent. La région parisienne, justement, celle où la pression est la plus forte, on verra ça avec l'invité du grand entretien.
Oui, il s'agit du directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, l'ARS, Aurélien Rousseau, micro d'Inter. Vous pouvez dialoguer avec lui, évidemment. Appelez-nous dès maintenant, 01 45 24 7000.
Michel Fourniret à Guermantes aujourd'hui sur les lieux de la disparition d'Estelle Mouzin en 2003 avec son ex-femme Monique Olivier, transport organisé par la juge d'instruction. Dans ce journal aussi, le Brexit au sommet européen de Bruxelles, l'échéance se rapproche pour trouver un accord commercial, mais ça ne sent pas bon pour l'instant. Et puis les ruines antiques de la Méditerranée sous l'œil de l'immense photographe Joseph Koudelka. C'est une exposition à la Bibliothèque nationale de Paris.
France Inter.
Nos nuits seront donc moins belles que nos jours en Île-de-France, à Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Toulouse, Saint-Étienne et même Rouen qui n'étaient pas en alerte maximale. Le couperet tombera samedi. Confinement de 21h à 6h du matin, sauf pour aller ou revenir du travail et sauf pour les urgences. Couvre-feu annoncé par Emmanuel Macron pour au moins 4 semaines. Pas de façon théâtrale, ça n'était pas une allocution solennelle. Mais dans les théâtres qui vont devoir fermer, la nouvelle est tombée comme une très mauvaise réplique. Stéphane Capron a passé la soirée au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, titre de la pièce « Avant la retraite ».
Au moment des applaudissements chaleureux, Noémie Lovski ne sait pas encore qu'elle saluera peut-être pour la dernière fois avant plusieurs semaines. Une fois le rideau baissé, elle apprend la mauvaise nouvelle.
Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et puis dès qu'on a fini les saluts, on a appris tout de suite. Bah, je suis catastrophée. Je suis atterrée par rapport au spectacle, je suis atterrée par rapport à tous les théâtres, à tous les cinémas, je pense à tous les intermittents, je pense à la culture.
Dans les couloirs, les spectateurs sortent les portables et découvrent stupéfaits les annonces.
21h, 6h du matin.
Ah, 21h, on peut plus rien faire après 21h.
Donc là, on peut rentrer chez nous quand même.
Alors le théâtre, c'est fini. Le cinéma, tout ça, c'est fini.
Mais c'est une catastrophe pour la vie culturelle, quoi. Ils avaient vraiment pas besoin de ça, quoi.
On s'attendait pas à un truc aussi dur, quoi.
Les directeurs non plus ne s'attendaient pas à ce couperet, même en maintenant les représentations du week-end en matinée. Cela n'est pas viable économiquement. À la Porte Saint-Martin, on va donc fermer le théâtre pendant la période du couvre-feu.
Et avec les théâtres et les cinémas, les restaurants fermés à 21h, c'est fermé tout court, disent les patrons. Le coup de grâce pour Didier Chenet, président du groupement national des indépendants de l'hôtellerie-restauration, avec Maxime Deps.
Nous n'en pouvons plus. Cette mesure qui a été prise, c'est une mesure déguisée de fermeture de nos établissements. Parce que 21h, vous ne faites pas un service du soir. Ça n'est pas possible. C'est une catastrophe économique pour notre secteur. Maintenant, le président de la République a pris des engagements. Il a dit, et il avait dit, pas de faillite du fait du Covid. Zéro chiffre d'affaires, zéro charge, quoi qu'il en coûte. Eh bien maintenant, nous demandons au président de la République de respecter sa parole. Et donc le gouvernement doit nous recevoir, nous avons demandé à être reçus par le président de la République, pour que l'on mette tout sur la table, mais cette fois-ci, on ne va pas se contenter des mesures que l'on nous annonce comme étant des mesures extraordinaires, formidables et qui vont sauver nos entreprises. Non, cette fois-ci, il faut véritablement parler des pertes que nous subissons. Nous, maintenant, c'est clair, on ne veut plus se faire balader. On veut travailler. Alors si on nous empêche de travailler, eh bien il faut nous indemniser.
Et
c'est tout.
Tous les professionnels contraints à la fermeture anticipée, Emmanuel Macron promet de nouvelles aides en plus du chômage partiel réactivé et du fonds de solidarité élargi depuis le confinement. Ce couvre-feu sera douloureux, mais c'est la seule façon de reprendre pleinement le contrôle de l'épidémie, dit le président, qui vise moins de 5000 contaminations par jour, alors qu'il y en a encore eu 22 000 hier, 200 admissions en réanimation et 104 décès du Covid-19. Épidémie galopante, comme elle l'était en Guyane au mois de juin. Le couvre-feu mis en place à ce moment-là à 17h a été salvateur, explique Clara Debord, la directrice de l'Agence régionale de santé de Guyane.
On veut absolument éviter les interactions sociales qui ont lieu après le travail, quand les amis se retrouvent. Et donc, on a voulu limiter au maximum la circulation épidémique. Alors, ça ne l'empêche pas au sein des foyers, naturellement. Mais oui, ce sont des efforts massifs. Ça a été dur. La mesure a été dure pour les bars et les restaurants. On a vu aussi des entreprises qui adaptaient leur organisation. Par exemple, les grandes surfaces ont ouvert beaucoup plus tôt le matin pour permettre à des personnes qui voulaient aller faire leurs courses les 6 heures du matin de pouvoir le faire. On a essayé tout ce qu'on a pu. Et c'est vrai que maintenant, à distance de l'événement, les chiffres sont sans appel. Le couvre-feu a eu des effets massifs sur la circulation de l'épidémie.
La directrice de l'ARS de Guyane avec Julie Pietri, réduire les interactions, c'est aussi demander à tous les Français d'appliquer la règle des 6. 6 personnes, pas plus, autour d'une table, recommande le président. Une recommandation, parce qu'on ne peut pas interdire les réceptions à domicile, à l'inverse des rues et des routes qui devront être désertées à partir de 21h dans les villes concernées et dès minuit demain soir. Ce sont les policiers et les gendarmes qui devront faire respecter le couvre-feu, amende de 135 € à la clé. Mais seront-ils suffisamment nombreux? Certains élus le disent tout net, c'est non, surtout en Île-de-France, Élodie Forêt.
Imposer un couvre-feu pour limiter la propagation du virus, pas sûr que ce soit très utile, grince le député UDI de Seine-Saint-Denis et ancien maire de Drancy, Jean-Christophe Lagarde. Mais surtout, a-t-on les moyens de le faire respecter? Non, répond-il catégorique.
À l'heure où je parle, c'est-à-dire 22h, il y a aujourd'hui 3 policiers dans une voiture pour surveiller 70 000 habitants et 450 de rue, c'est-à-dire qu'il n'y aura personne pour contrôler ce que vous venez de dire à la télévision. Il y a une espèce de différence terrible entre ce qu'il vient de dire et ce qui va se passer sur le terrain.
3 policiers mobilisés la nuit, c'est aussi le cas à Alfortville dans le Val-de-Marne. Insuffisant pour contrôler les habitants, selon le maire socialiste Luc Carvounas, qui dénonce des mesures hors sol.
Nous sommes mis devant le fait accompli, il n'y a eu aucune concertation avec les élus locaux. On nous vend depuis des mois le couple maire-préfet, et in fine, cela n'existe pas. En fait, on a affaire à des décisions froides, cliniques, sans concertation, sans dialogue. La méthode qui est employée n'est pas la bonne méthode.
Des élus sceptiques qui redoutent aussi la réaction des habitants, que ce couvre-feu soit une nouvelle source de tension dans un contexte déjà explosif.
Concertations locales, elles seront engagées dès aujourd'hui pour la mise en place du couvre-feu. Dans le détail, Jean Castex, Olivier Véran, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire donneront cet après-midi une conférence de presse. Quant à la durée de ce confinement de nuit, ce sera 4 semaines à minima. Emmanuel Macron souhaite aller jusqu'à 6, jusqu'au 1er décembre, mais le Parlement devra approuver ces 2 semaines supplémentaires.
Il est 8h08, 6 semaines sans sortir le soir, donc 20 millions de personnes concernées.
Cette décision est la plus lourde depuis le confinement du printemps, mais le ton du président n'était pas martial. Emmanuel Macron, hier soir, a tout fait, Simon Le Baron, pour faire passer la pilule.
Comment demander à 20 millions de Français d'oublier leur vie sociale quand la plupart ne vous fait pas confiance pour gérer la crise? Exercice difficile. Alors Emmanuel Macron loue notre comportement pendant le confinement.
Les Français ont été exemplaires. Et nous l'avons respecté beaucoup mieux que dans d'autres pays.
Il refuse de blâmer les jeunes fêtards, pourtant pointés du doigt par ses ministres.
C'est dur d'avoir 20 ans en 2020.
Oui.
C'est dur. Donc je donnerai jamais de leçons à nos jeunes.
Le chef de l'État ne demande pas non plus aux vacanciers de la Toussaint d'annuler leurs réservations.
Demander aux gens de rester chez eux dans un appartement et de ne pas aller dans un lieu de vacances, honnêtement, ce serait disproportionné et parfois contre-intuitif.
Il ne compte pas renforcer le télétravail pour ne pas nous obliger à rester enfermés toute la journée.
Quand on a une résidence secondaire tout à fait sympathique et qu'on télétravaille, c'est chouette. Quand on a un appartement que les enfants sont à la maison, ça devient vite très dur.
Et quitte à positiver, il envisage même des spectacles de fin d'après-midi.
On va essayer d'aider au maximum les théâtres, les cinémas, à pouvoir avoir des reprogrammations, organiser les choses pour pouvoir y aller un peu plus tôt.
En résumé, Emmanuel Macron annonce une mauvaise nouvelle, mais ne veut surtout pas braquer les Français.
Et là aussi, c'est encore une fois du bon sens.
Il le dit lui-même, j'ai besoin de chacun d'entre vous.
Et nous en avons jusqu'à l'été prochain, au moins avec ce virus, a aussi prévenu le président, qui promet une nouvelle stratégie de test plus rapide et une nouvelle appli à la place de Stop Covid. Elle s'appellera Tous Anti-Covid et sera lancée le 22 octobre. La France n'est pas la seule à serrer la vis. De nouvelles restrictions annoncées un peu partout en Europe cette semaine. Hier en Irlande et en Irlande du Nord, en Catalogne et en Allemagne, Partout, ce sont les interactions sociales qui sont dans le viseur des gouvernements. Augmenter les minima sociaux, alors que les plus précaires sont ceux qui souffrent le plus de la crise. Emmanuel Macron en convient, mais il n'y aura pas de hausse du RSA. Ses bénéficiaires, en revanche, auront droit à une aide exceptionnelle de 150 euros, plus 100 euros par enfant, qui s'appliquera aussi à ceux qui touchent les APL. Un malus au poids, le gouvernement finalement suivra la proposition des citoyens de la Convention pour le climat. C'est une information des Échos. Les véhicules de plus de 1800 kilos seront surtaxés.
France Inter, il est 8h10. Michel Fourniret, Florence, sur les lieux du crime.
À Guermantes, aujourd'hui, là où Estelle Mouzin a disparu en 2003 avec son ex-femme Monique Olivier. C'est la juge qui instruit l'affaire, qui organise ce transport en Seine-et-Marne. Alors que l'ADN de la fillette a été identifié sur un de ces matelas, ce sera donc une journée cruciale pour l'enquête, Corinne Audouin.
Le 9 janvier 2003, Estelle Mouzin disparaissait à Guermantes entre la sortie de l'école et sa maison. Pour retrouver les conditions proches de ce jour-là, la reconstitution commencera une fois la nuit tombée. Didier Seban est l'avocat d'Éric Mouzin, le père d'Estelle.
C'est un lieu où on s'est posé toutes les questions. Quel chemin a-t-elle pris? Par où est passé le tueur? Pourquoi personne ne l'a vu? Donc peut-être que Michel Fourniret présent va avoir une illumination et va nous dire quelque chose qui permet de comprendre quelque chose que nous ne comprenons toujours pas. Peut-être qu'on en saura plus sur le lieu où a été enterrée Estelle. Toutes ces questions-là, il faut qu'elles soient posées en situation.
Monique Olivier, qui a participé à plusieurs des crimes de son ex-mari, affirme qu'elle était en Belgique le soir de la disparition d'Estelle, ce que semble attester un coup de téléphone passé à son fils. Sa présence aujourd'hui à Guermantes est pourtant essentielle pour faire parler Michel Fourniret et pour s'expliquer sur les SMS échangés ce soir-là avec lui, l'avocat de Monique Olivier, Richard Delgenès.
C'est ça, Guermantes, c'est le point de départ de tout. C'est pour ça que c'est important. Après la présence de Monique Olivier, si la juge estime qu'il y a eu des communications SMS, téléphone entre eux, à telle heure, c'est le travail du juge d'instruction.
La juge a prévu un autre déplacement avec les suspects à la fin du mois dans les Ardennes.
Corinne Audouin, 500 personnes hier devant le commissariat de Juvisy-sur-Orge dans l'Essonne. Policiers, élus, habitants de la commune ont fait une minute de silence en soutien aux policiers renversés par une voiture la nuit dernière. Il est toujours à l'hôpital, son pronostic vital engagé par un traumatisme crânien. Le conducteur qui lui a foncé dessus a été identifié.
Le Brexit, 8h12, on ne compte plus les saisons, Florence, et les épisodes du feuilleton.
Le dossier sur la table, une nouvelle fois du Conseil européen à Bruxelles aujourd'hui. L'Europe et le Royaume-Uni ont jusqu'à la fin de l'année pour trouver un accord sur leurs futures relations commerciales. Mais les négociations n'avancent pas. Boris Johnson fait planer la menace d'un no deal. Et le pays s'organise pour faire face au retour des contrôles douaniers dans le Kent. Notamment, une zone immense est en construction pour accueillir au moins 2000 poids lourds et désengorger les ports de la Manche. Visite de chantier, signé Richard Place.
Dans sa voiture électrique, Mandy Rossi longe les kilomètres de barrières qui entourent le chantier. La leader des Verts dans le Kent est désespérée par ce qu'elle voit.
Si vous étiez venu ici 6 mois plus tôt, vous auriez trouvé ça très joli. Si ça continue et qu'ils mettent jusqu'à 2500 poids lourds à cet endroit, ils vont défigurer le Kent. C'était le jardin de l'Angleterre, plein de beaux villages, de petits pubs, d'églises tranquilles. C'est magnifique. Petit à petit, c'est transformé en ça.
Cet immense terrain boueux doit donc se transformer en zone de douane d'ici 2 mois et demi sous peine de pagaille sur la route. Et on ne peut pas vraiment compter sur le député pour rassurer la population. Damian Green est conservateur, il fait donc partie de la majorité. Mais la perspective du Brexit le 1er janvier l'inquiète.
Oui, absolument. Je pense qu'il serait beaucoup mieux de quitter l'Europe avec un accord, particulièrement pour nous dans le Kent. Nous ne voulons pas voir les autoroutes complètement bloquées. C'est déjà arrivé dans le passé et ça provoque le chaos dans toute la région.
Cette zone de douane sera-t-elle opérationnelle dans les temps? Le gouvernement britannique lui-même n'en est pas certain. Il a réquisitionné un autre terrain quelques centaines de mètres plus loin, au cas où. Ashford, Richard Place, France Inter.
Le duel à distance se poursuit entre la France et le Portugal. En Ligue des Nations, les Bleus ont gagné 2-1 contre la Croatie. Hier soir, les Portugais 3-0 contre la Suède. Les deux équipes sont à égalité et auront donc encore 2 matchs pour se départager et atteindre les demi-finales de la Ligue des Nations.
Enfin, ces images du printemps de Prague sont entrées, Florence, dans la légende de la photographie.
Joseph Koudelka, qui expose à la Bibliothèque Nationale de France à Paris, mais personne sur ces clichés. Cette fois, ce sont des photos de ruines, des sites archéologiques de Méditerranée. Son œil sur la pierre, noir et blanc, somptueux, nous dit Isabelle Pasquier.
Joseph Koudelka, qui est mondialement connu pour ses photos du printemps de Prague et d'une jeunesse révoltée, a choisi d'arpenter pendant 30 ans 200 sites archéologiques sans aucune présence humaine. Il y a cette main de pierre démesurée d'Hercule qui s'agrippe à la terre sous les ruines d'Aman, Delphes, Baalbek, Épidaure, Petra et bien sûr, immense émotion devant les ruines de Palmyre, aujourd'hui détruites. Avec ses panoramas en noir et blanc, ses jeux d'ombre et de lumière surnaturelles, Koudelka semble saisir la respiration des pierres, que le temps continue d'éroder et l'homme d'abîmer. Et c'est pour saisir ces changements qu'il retourne sur les sites. Son objectif, avec ses yeux bleus de 81 ans, continuer à immortaliser cette beauté.
Pourquoi est-ce que je vais dans ces endroits? Parce que ces endroits sont si beaux, ils sont si merveilleux. J'essaye toujours d'y faire une bonne photo. Faire une bonne photo, c'est la seule chose qui compte. Qu'est-ce qu'une bonne photo? Si je devais vraiment le formuler, je fais un tour, je marche encore et toujours, et j'essaye de découvrir l'endroit où l'image m'attend. Et puis tu continues à t'y rendre. Si tu as de la chance, tu y arrives.
Certaines photos penchent et soulignent la fragilité de ce que l'on croit éternel. Koudelka, un regard unique pour capter le mystère de ces ruines, mémoire minérale de notre civilisation.
Joseph Koudelka, la Bibliothèque Nationale de France à Paris. Voilà une sortie qu'on peut tout de même faire malgré le couvre-feu.
Et vous, allez boire un thé avec du miel. Merci Florence Paracuelos.